J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet que j'ai intitulé « Les hommes qui ont raté Noël ». Les hommes qui ont raté Noël. Je ne sais pas si votre histoire de la Deuxième Guerre mondiale est très bonne, mais très intéressante. C'était pendant la première semaine de juin 1944 que le célèbre général allemand Rommel renforçait les fortifications des plages en Normandie contre l'invasion imminente des Alliés dans l'Europe d'Hitler. Ceci était le général Rommel qui était devenu célèbre comme stratégiste militaire en Afrique du Nord. Et Rommel était convaincu, à ce point-là dans la guerre, que si les Alliés réussissaient à s'implanter en France, que la guerre serait perdue pour l'Allemagne. Ainsi, il avait fait énormément pour bien protéger les côtes nord de la France. Et ils étaient en attente pour ce moment. Mais les premiers jours de 1944 ont fait l'expérience de changements importants de météo, peut-être, vous êtes au courant. Une tempête carrément est apparue et tournait de pire en pire. Et puisqu'il n'y avait pas de changement météorologique prévu, Rommel s'est dit qu'il pouvait se permettre quelques jours d'absence. Et oui, voyez-vous, sa femme allait fêter son anniversaire le 6 juin. Et donc, il lui a décidé de faire une surprise. Il est parti pour Berlin le 5 juin. Et imaginez, il se trouvait avec sa famille le 6 juin. Et de ce fait, Rommel a raté l'invasion des Alliés. Imaginez, le plus grand des généraux allemands, qui lui-même avait ressenti qu'une invasion par débarquement en Normandie des Alliés serait l'invasion militaire la plus importante de l'histoire, lui a raté l'invasion. Et il s'était pourtant bien préparé. Mais quand elle est arrivée, il était si occupé par d'autres choses qu'il a tout simplement raté l'événement. Alors nous connaissons bien sûr le reste de l'histoire. L'invasion jointe des Alliés a mené, éventuellement, à la destruction du Troisième Reich. Drôle d'histoire, vous ne trouvez pas? Vous savez que beaucoup de gens, au travers de l'histoire, ont fait la même expérience que Rommel et ont raté des choses importantes dans la vie. Moi, par exemple. L'année passée, j'étais à Berlin. Première fois que ça m'arrive, je me suis perdu dans les métros de Berlin. Ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et j'allais à l'aéroport pour prendre un vol. Et je suis arrivé à l'aéroport 30 secondes trop tard. Et dans ce petit aéroport, je voyais la porte de l'avion fermée. Impossible de prendre l'avion. C'est un drôle d'effet de rater son vol. Et oui, nous avons tous sans doute raté quelque chose d'important dans la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a des personnes dans l'histoire qui ont raté quelque chose de bien plus important qu'une invasion militaire ou qu'un vol à Berlin. Oui, il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui ont raté l'invasion spirituelle la plus importante de l'histoire du monde. L'invasion de Dieu sur terre dans la personne de Jésus-Christ. Donc j'aimerais vous poser une question. 2007, avez-vous raté Noël? Ou allez-vous rater Noël? Mais vous dites, mais John, écoute, je célèbre Noël tous les ans. Je fais un sapin, des lumières qui clignotent, cadeaux sous le sapin. Je vais faire du shopping, on a les vacances, on part en voyage. John, je célèbre Noël tous les ans. On met même des lumières qui clignotent sur la maison cette année. Waouh ! Oui, je parle à vous. Avez-vous possiblement raté Noël ? Avez-vous tragiquement raté Noël cette année comme bien des années passées ? Si oui, vous n'êtes pas seul. Savez-vous que nous découvrons même dans la Bible, à l'époque même de la naissance de Jésus-Christ, oui, lors de ce premier Noël à Bethléem, qu'il y a des hommes qui ont raté l'événement le plus important de l'histoire du monde. Il y a des hommes qui étaient là, qui ont raté le premier Noël. Et quelque part, on pourrait dire qu'il n'y a aucune raison valable pour laquelle ils auraient dû rater ce Noël. Alors j'aimerais vous en présenter trois. Trois personnes ou groupes de personnes qui ont raté Noël. Regardons en premier l'aubergiste. L'aubergiste, et oui, a raté Noël. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Et j'aimerais lire à partir du verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le contexte historique de la naissance de Jésus est très intéressant. Au verset 1, nous voyons que cette histoire est située dans l'histoire. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Et il dit en plus, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. César Auguste devient officiellement empereur romain dans l'année 27 avant Jésus-Christ et a régné jusqu'à 14 après Jésus-Christ. En fait, on connaît mieux cet empereur par le nom d'Octavien. Donc, en tant qu'empereur, César Auguste ou Octavien décide de faire un recensement, c'est-à-dire un dénombrement détaillé de tous les habitants de la terre, comme il est dit au verset 1. Bien sûr, là, il parle de l'Empire romain. Pourquoi ? Probablement pour une meilleure perception des impôts. C'est intéressant de savoir que des documents de l'époque romane ont été retrouvés qui indiquent que des recensements se faisaient environ tous les 14 ans dans l'Empire romain. Et donc, la Judée et la Galilée sont inclus dans ce recensement, puisqu'ils sont occupés par les Romains et font partie de l'Empire romain. Alors, verset 2, on apprend quelque chose d'intéressant, que ce recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Incident, et je pense que c'est important de le souligner, cet incident se déroule dans un contexte parfaitement historique durant une époque réelle. Ce n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas un conte de fées, c'est de l'histoire. Et au verset 3, on apprend tous à l'air se faire inscrire chacun dans sa ville. Donc le texte nous dit, conforme à l'édit de l'empereur, que tous allaient se faire inscrire dans sa ville, donc chaque juif devait se faire recenser dans sa ville ancestrale. Parce que les Romains, bien sûr, avaient envahi le territoire, donc les juifs devaient se faire recenser. Et au verset 4 et 5, Joseph aussi montait de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Et là, il devait se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Donc, Joseph, juif, se rend à Nazareth. Qu'est-ce que je dis ? Non, de Nazareth à Bethléem, excusez-moi. Et parce que Bethléem est la ville de David, parce qu'il était de la famille de David. Et donc, Bethléem était sa ville ancestrale. C'est exactement ce que Matthieu 1,6 et 1,16 nous montrent dans la lignée de Joseph. Nous voyons que Joseph était de la lignée directe ou descendant direct du roi David. Et donc, il devait aller à Bethléem pour se faire recenser, car c'était la ville de David, selon 1 Samuel 26. Et donc, Joseph et Marie font un voyage d'environ 120 km de Nazareth où ils vivaient à Bethléem pour se faire recenser. Mais vous pouvez poser la question, mais pourquoi est-ce que Marie est allée avec Joseph, sachant qu'elle était 9 mois enceinte? Ça paraît pas très logique. Était-ce vraiment nécessaire? Eh bien, il y a 2 raisons probables. Le couple savait peut-être que l'enfant, bien sûr, serait né pendant que Joseph serait loin, et ne voulait probablement pas être séparé pour l'événement. Ça, c'est une possibilité. Mais aussi, peut-être, la plus importante encore, Joseph et Marie savaient que leur enfant était le Messie. Ils le savaient. Parce que l'ange leur avait dit, dans Matthieu 1, et verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée avec Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car, et voici la clé, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça avait été prophétisé 800 ans par le prophète Ésaïe, comme quoi une Vierge aurait un fils. Donc l'ange le révèle à ce couple, et il ne veut pas rater la naissance du Sauveur du monde. Donc, ils y vont ensemble. Et moi, je trouve ça absolument remarquable. C'est comme si Dieu a orchestré les événements de l'Empire romain pour permettre que Jésus soit né à Bethléem comme la prophétie de Michée 5.1 l'exigeait. Ça, c'est au-delà du fantastique. Ça, c'est du miraculeux, en fait. Alors, la naissance. Nous sommes dans Luc 2, de nouveau. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est ici que nous rencontrons la première personne qui a raté Noël, ce premier Noël. C'est l'aubergiste. Alors, c'est intéressant, la Bible ne le mentionne pas de manière explicite. On ne connaît pas son nom. Et pourtant, c'est intéressant, lorsque Luc a écrit son évangile, il nous est dit dans le chapitre 1 que Luc a fait des recherches très poussées pour être sûr que ce qu'il écrivait était historique. Donc, il a fait des recherches et cet aubergiste apparaît dans l'histoire. Luc dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit. Et donc, dans toutes ces recherches, il a trouvé qu'il y avait un aubergiste, mais il n'a pas trouvé le nom de l'aubergiste. Personne ne se rappelait de lui. Finalement, il n'y avait aucune raison de se rappeler de lui, car il avait raté Noël. Tout ce que nous savons, c'est que Joseph et Marie se présentent à l'auberge pour une chambre et cet homme lui dit ou leur dit « Non, il n'y a pas de place pour vous dans l'auberge. Pourquoi ? Pourquoi ?» L'explication traditionnelle est qu'il y avait tellement de juifs à Bethléem pour le recensement que les chambres étaient pleines. C'est possible. Mais vous savez, les juifs étaient des gens très cordiaux. Si une femme 9 mois enceinte qui avait peut-être déjà, qui expérimentait sans doute déjà des contractions, puisqu'elle allait accoucher de manière imminente, si quelqu'un se présentait à une chambre, dans une auberge pleine de juifs, eh bien certainement qu'un autre juif aurait offert sa chambre à Marie. On lui aurait offert quelque chose de correct. Non, l'autre explication, c'est qu'afin de faire le recensement, les Romains ont envoyé une délégation importante de personnes à Bethléem et dans les autres villes de l'Empire romain. Et les Romains, jamais, ne logeraient-ils chez un juif. Et donc, eux prenaient les auberges et les hôtels. Ainsi, on peut supposer que les Romains étaient installés dans l'hôtellerie de Bethléem et que l'aubergiste, un juif, en quelque sorte, était coincé Il avait une auberge pleine de Romains, et voilà, un couple juif dont une femme enceinte se présente. Il ne pouvait pas facilement virer un Romain, demander aux Romains de quitter une chambre pour ce couple. Donc j'imagine ce couple se présenter à l'auberge, frappé, et cet aubergiste, d'un côté, peut-être veut les aider, mais il ne sait pas trop comment faire. On peut imaginer cette auberge pleine à craquer, des gens qui mangent, qui boivent, qui rient, le feu dans un coin, les bougies sur les tables. Ça bourdonne d'activité dans cette auberge. Et là, ce couple qui a besoin d'aide. Mais il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pourquoi ? Pourquoi l'aubergiste a-t-il raté Noël ? Moi, je pense qu'il était tout simplement trop préoccupé par les demandes et les contraintes de sa vie. Il était tellement occupé à faire ce qu'il devait faire, son travail et plaire aux Romains et tout ce que ça engendre de faire tourner une auberge, qui n'a pas pu s'arrêter pour aider ce couple. Vous savez, les préoccupations et les affaires de tous les jours de cet homme étaient si importants que Jésus est né dans une étable. Car il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Vous savez, moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme l'aubergiste aujourd'hui. Ils ratent Noël pour les mêmes raisons. Préoccupations. Préoccupations de toutes sortes dans la vie. Le travail, la carrière, la vie active du quotidien. Il y a des gens qui sont tellement occupés qu'il n'y a même pas le temps de réfléchir aux choses de Jésus-Christ. C'est une menace. Et ils disent, mais tu sais, les Romains sont là, moi je ne peux rien y faire. Les Romains ont pris ta place. Moi je dois travailler, et mon travail me prend du temps, et je dois assurer mon avenir. Non, il n'y a pas de place pour Jésus-Christ. Dans Luc 14, il y a une parabole intéressante, la parabole du grand souper. Je trouve qu'elle est très appropriée au verset 15 de Luc 14. C'est une parabole que Jésus donne par rapport au royaume de Dieu. Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ces paraboles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt, venez !» Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je ne peux pas venir. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. » Une excuse, oh, valable, certes, mais vraiment valable, après l'autre. Alors le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. » Afin que ma maison soit remplie. Et ensuite il dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. On est tellement préoccupé par tellement de choses. Donc je vous pose la question cette année, et vous ? Êtes-vous comme l'aubergiste tellement préoccupé par le matériel ? Que vous avez oublié le vrai sens de Noël ? Jésus-Christ était la porte. Il frappe, nous dit Apocalypse 3:20. Et il veut rentrer. Dans l'auberge, certes, mais dans notre cœur. Y a-t-il de la place pour lui dans votre cœur ? Il vous offre le pardon de vos péchés. Il est né. Il a vécu une vie parfaite, 33 ans. Il est mort, il est crucifié, il est ressuscité des morts pour nous prouver que le péché est vaincu, qu'il peut réellement pardonner nos péchés. Mais il faut le vouloir. C'est intéressant, vous savez que Jésus-Christ aurait pu défoncer la porte de l'auberge. Ah, il aurait pu se forcer. Il aurait pu virer tout le monde de cette auberge. Jésus-Christ est Dieu, mais il ne l'a pas fait. Jésus-Christ veut être invité. Il veut être invité. Il ne va jamais se forcer sur quelqu'un, jamais. Donc voici la première personne qui a raté Noël, l'aubergiste. Il y a une deuxième personne qui a raté Noël. Hérode. Hérode. Vous vous rappelez de Hérode, le roi Hérode? Dans Matthieu 2, on apprend quelque chose sur Hérode. Jésus, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Au temps du roi Hérode. Alors Hérode, c'est un personnage historique très intéressant. En 47 avant Jésus-Christ, Jules César avait nommé Antipater procurateur ou gouverneur de Judée. Et puis Antipater nomma son propre fils Hérode préfet de la Galilée. Et c'est l'empereur Octave qui le déclare ensuite roi des Juifs. Hérode est roi des Juifs. Pourquoi ? Ah, parce qu'il était lui-même demi-juif, avec un père édomite. Et pour mieux se faire passer en Israël, il décide d'épouser une juive, Marianne. Alors c'est un homme intéressant. D'un côté, il faisait beaucoup de bien pour ce pays. En temps de déprime économique en Palestine, il rendait une portion des taxes qu'il prenait du peuple. Pendant une famine sévère en 25 avant Jésus-Christ, il a même fondu des objets d'or afin d'acheter de la nourriture pour des pauvres. Il a construit des théâtres, des hippodromes. Il a reconstruit des villes pour le peuple. C'est lui qui a construit le port de Césarée. C'est lui qui a aussi décidé de reconstruire le temple des Juifs à Jérusalem, ainsi que son très célèbre lieu de retraite à Massada, qu'on peut aller visiter encore d'ailleurs aujourd'hui. Alors ça, c'était ses points forts, si on peut le dire. Mais il avait pas mal de points faibles. Je vous donne quelques points faibles de cet homme, Hérode. Bon, il était super cruel, sans pitié. Un homme extrêmement jaloux qui se sentait toujours menacé. Il tenait à son pouvoir et quand on menaçait son royaume ou sa position de roi, il n'hésitait pas un instant à éliminer le coupable. Je vous donne un exemple. Un jour, il s'est senti menacé par le haut sacrificateur Aristobulus, le frère de sa femme Marianne. Alors il l'a fait noyer. Et puis il a organisé un grand enterrement auquel il a fait semblant de pleurer, nous disent les historiens. Et puis, il a fait tuer sa propre femme, Marianne, ainsi que sa mère et ses deux fils, donc ses fils à lui. Alors ça, c'est intéressant. 5 jours avant sa propre mort, donc il savait qu'il allait mourir, c'était à peu près 1 année après la naissance de Jésus, il a fait tuer son 3e fils. Mais son dernier acte de barbarie était au moment de sa propre mort. Il savait que personne ne lamenterait sa mort à lui. Et puisqu'il savait que cela allait se produire, il a fait arrêter plusieurs personnes connues à Jérusalem et les a mis en prison. Et il a donné l'ordre qu'au moment où il mourrait, que tous les prisonniers soient exécutés afin de garantir que Jérusalem soit en deuil le jour de sa mort. C'est important de savoir ces détails. Parce que certaines personnes veulent lire Matthieu 2, 16, qui dit « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il avait soigneusement enquis auprès des mages. » Mais écoutez, c'était un assassin habituel, cet homme. C'est tout à fait historique. Alors, Hérode habite à Jérusalem. Et un incident étonnant se produit. Nous apprenons que quelques jours après la naissance de Jésus, que des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors malheureusement, vous savez, les cartes de Noël qu'on achète dans les magasins ont fait que cette histoire aujourd'hui nous semble encore une sorte de conte de fées. Il y a 3 mages, vous verrez une photo tout à l'heure. C'est tout à fait la photo que j'ai prise aussi. Ce n'était pas une photo, en fait, c'est un dessin. Il n'y a pas l'appareil. Et on a l'impression que c'est de nouveau une fable. Ce sont des personnages inventés. Faux. Ce sont des personnages historiques. Il faut savoir que 6 siècles avant la naissance de Jésus, Daniel, le prophète juif qui a écrit un livre dans la Bible, vivait en Babylonie, comme beaucoup d'autres juifs qui avaient été déportés. Après avoir pu interpréter un rêve du roi babylonien dans Daniel 5:11, le texte nous dit que Daniel, un juif, a été promu chef des mages, d'où nous avons le mot magicien. C'est la même racine. Et ça, c'était une sorte de la religion du jour. C'était des astrologues, ils avaient des chapeaux en cône. Alors, lui ne pratiquait pas cette religion, mais il faisait partie du groupe proche du roi, qui était conseiller du roi. Et puisqu'il a réussi à interpréter le rêve du roi, le roi l'a mis chef de tous les mages. Daniel, le prophète juif. Et en tant que chef des mages, son influence parmi ces mages occultes était formidable. 4 chapitres plus tard, dans Daniel 9, il donne une prophétie époustouflante du jour même de la rentrée du Messie à Jérusalem. Daniel 9, une prophétie étonnante, on n'a pas le temps d'y aller. Ainsi donc, 6 siècles plus tard, les descendants de ces mages qui avaient le livre Daniel, qui avaient les prophéties qu'ils avaient reçues de Daniel, viennent à Jérusalem à la recherche de ce Messie. Dieu les aide par une étoile qui les guide. Donc ils ont les prophéties dans une main et l'étoile, si je peux le dire ainsi, dans l'autre. Ils n'étaient pas 3 mages. Ça, de nouveau, c'est les cartes de Noël qui veulent nous faire croire qu'il y avait 3 mages. On estime qu'il y avait probablement 1000 hommes qui sont venus. C'était une mini-armée. Cela explique pourquoi Hérode avait tellement peur lorsqu'il a appris que ces mages venaient. C'était un pays, la Parthe, un pays hostile à Israël à l'époque. Et donc, il avait peur. Il avait pensé que c'était une déclaration de guerre. Et il est dit que Hérode et tout Jérusalem fut troublé. Alors c'est intéressant le récit dans Matthieu 3, verset 2. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il l'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître et lui dire à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, écoutez ce qu'ils disent. Faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Mon œil. Non, il était menacé. Il y a un roi qui vient, il l'appelle le roi des Juifs. Ben, il y a un autre roi qui vient menacer sa position. Il n'a pas du tout l'intention d'aller l'adorer, comme vous le savez. Alors, verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et donc, quand ils virent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange. Allons au verset 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc ils vont en Égypte. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Il était menacé, ce roi. Il avait peur de ce bébé. Quelque part, il croyait qu'il y avait peut-être un roi. Alors, il a éliminé tous les enfants. Pourquoi Hérode a-t-il raté Noël? Pourquoi? Ah, parce que c'était lui le roi. C'était lui le roi. Son problème, c'était de l'orgueil. Il était orgueilleux. Il avait peur de céder son trône. Il n'avait eu aucune intention de laisser ce petit bébé interférer avec sa carrière, sa position, son pouvoir, ses ambitions, ses projets et son mode de vie. Et moi, je me demande si on n'est pas un peu comme Hérode parfois. Nous sommes le roi. Je suis le roi de ma vie. Pas touche. Je ne cède ma place à personne. Je suis chef. Et je n'ai pas besoin de sauveur, je n'ai pas besoin de seigneur, non. Je suis autosatisfait. Ne me dérangez pas même avec les fêtes. Et je ne vais surtout pas laisser Jésus-Christ interférer dans ma vie. Je ne vais surtout pas laisser Jésus-Christ interférer dans ma vie, dans mes plans, dans mes projets. Et c'est dommage, vous savez. C'est vraiment dommage. Juste rapidement, parce que je sais que le temps passe, qu'est-ce qu'il peut vous offrir concrètement? Par exemple, dans Matthieu 11, 28. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous promet quelque chose d'absolument merveilleux. Venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es fatigué, si tu es chargé, il dit venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Wow! Si tu es une personne qui est inquiète, rongée par l'inquiétude, ou tu es troublé, le Seigneur Jésus-Christ peut donner du repos à ton âme, car son joug est doux et son fardeau est léger. Dans Jean 14, il promet encore des promesses absolument époustouflantes. Jean 14, 27, il dit ceci, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, car la paix du monde, vous savez, elle est éphémère. Elle vient un jour, elle repart. Tout est dépendant des circonstances. » Lui dit, « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Lui peut nous donner une paix authentique, interne et spirituelle. Ça ne garantit pas qu'il va enlever toutes les épreuves de la vie. Mais dans l'épreuve, il peut donner la paix. Il nous donne en plus la joie. Jean 16, 24 nous le dit. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous m'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Attendez voir. C'est fort. Il promet quoi? Une joie parfaite. Même dans l'épreuve, c'est ça le miracle. Nous vivons dans un monde, l'épreuve existe dans le monde. Mais dans l'épreuve, il peut nous donner la paix et la joie et le repos. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Waouh. Et il nous donne l'amour. Regardez encore, ça c'est quelque chose de merveilleux. Peut-être le fardeau de votre vie, c'est le mal qui est en vous. La Bible nous dit qu'on est né dans le péché, il y a le mal qui s'accroche à nous. Et on ne peut rien faire pour enlever ce mal. Vous pouvez faire la religion, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à enlever le problème du mal dans votre cœur. Mais que dit Christ? Dans Actes 10, 43, nous lisons ceci. Actes 10, 43. tous les prophètes rendent de lui, Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il te lave et il te purifie instantanément lorsque tu lui cèdes ta vie par la foi. Ce sont des promesses. Et vous savez quoi? Ce qui m'étonne, c'est que Hérode n'en voulait rien de tout ça. Laisse-moi tranquille. Ok. C'est ce qu'il dit Jésus? D'accord. Je te laisse. Vis ta vie comme tu la veux. Je termine avec le troisième. Troisième personne ou groupe de personnes qui a raté Noël, ce sont les Juifs. C'est quelque chose, chaque fois que je lis ce texte, m'étonne. Alors, Hérode est à Jérusalem, hyper menacé. Les mages d'Orient viennent, lui annoncent qu'il y a un roi qui va naître. Il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Matthieu 2, 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Écoutez très bien. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Écoutez, il réunit le top du top des religieux juifs. L'élite absolue, tous. Il leur dit, écoutez, on vient de me dire qu'il y a un roi des juifs qui doit naître quelque part ici. Veuillez, s'il vous plaît, vous, juifs, me dire où il va naître. Est-ce que vos écrits dans la Bible, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a quelque chose qui dit quelque chose sur la naissance du Messie? Alors, vous savez ce qu'ils font? Ils font des recherches, au comité de recherche. Et ils analysent. Et ils tombent sur une prophétie absolument étonnante dans Michée 5.1. Et donc, ça, c'est les Juifs qui tombent sur cette prophétie. Et je vais lire. Michée, chapitre 5. Alors, j'aimerais que vous compreniez que Michée a été écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas rien. Et lise Michée 5.1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc il est dit dans Matthieu 2 maintenant, dites-moi où naîtra le Christ. Verset 5, ils lui dirent, à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète, il cite, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et vous rappelez l'histoire, je viens de lire, pour leur dire, « Écoutez, quand vous le trouvez à Bethléem, dites-le-moi, j'irai l'adorer. Hein » On a déjà vu ça. Vous savez ce qui est incroyable dans cette histoire? C'est que les Juifs mettent le doigt pile poil sur le lieu de naissance de Jésus-Christ. Des mages d'Orient, peut-être une armée de 1000 personnes viennent, ils disent qu'une étoile les a amenés là, ils ont les prophéties parce qu'il doit naître maintenant. Hérode apporte. Les Juifs trouvent l'endroit et aucun d'eux ne se déplace pour aller voir. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'incroyable. Aucun d'eux n'est allé voir pour voir si c'était correct. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils étaient religieux. Ils étaient religieux. Ils étaient religieux. Et ils étaient auto-satisfaits par leur propre religion. Ils n'avaient pas besoin de sauveur, ils avaient leur religion. Vous savez ce que c'est la religion? La religion te fait croire en faisant tes actes religieux que finalement t'es pas mal. C'est ça la religion. Plus tu fais de la religion, plus tu te dis, wow, Dieu est content avec moi, regarde Dieu tout ce que je suis en train de faire. Dieu répond, vous savez ce qu'il répond? Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il répond, Ecclésias 7, 20. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Mes amis, tu peux faire toute la religion que tu veux, tu n'arriveras jamais à devenir parfait, car ça, c'est le critère. Jésus a dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Qui peut se perfectionner à la perfection? Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. Et Jacques 2,10 nous dit qu'un péché suffit de nous condamner pour toute l'éternité. Mes amis, tu peux être aussi religieux que tu veux, ça ne servira strictement à rien, car il te faut être pardonné de tes péchés, il faut être lavé et purifié, il n'y en a qu'un qui peut faire ça, Christ, mort et ressuscité, pour ôter notre péché, Jean 1,29. Et ces hommes ont été aveuglés par leur religion, c'est le comble mes amis, c'est le comble. Et combien de gens aujourd'hui dans le monde sont aveuglés par leur propre religion? Ce n'est pas la religion qu'il te faut, c'est un sauveur, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui vient ôter le péché du monde. L'attitude que nous devrions avoir et que les Juifs auraient dû avoir, c'est l'attitude vue dans Luc 18. Cette petite histoire très courte que vous connaissez peut-être. Luc 18, 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, c'était un juif. L'autre était publicain, c'était les rejetés de la société. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs et injustes et adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Wow, ça c'est de la religion. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut un cœur contrit, un cœur qui comprend qu'il est pécheur et qu'il ne mérite rien sauf le courroux de Dieu, mais qu'il a offert le pardon gratuit en Jésus-Christ. Et il dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, parlant bien sûr de celui qui était contrit plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est intéressant, non? Alors voilà, mes amis, lors de ce premier Noël, trois personnes ou groupes de personnes ont raté le premier Noël. Alors je me demande ici, dans le 2007e Noël, combien de personnes autour de nous ratent Noël? Vous, peut-être? Êtes-vous comme l'aubergiste, tellement préoccupé par les soucis de la vie que vous n'avez tout simplement pas le temps pour Noël? Êtes-vous comme Hérode, tellement fier de votre propre personne qu'il n'y a tout simplement pas de place pour un autre roi dans votre vie, parce que c'est vous le roi? Ou êtes-vous comme les Juifs, tellement religieux, tellement fiers de vos efforts, certainement louables, mais insuffisants, que vous allez rater Noël? Parce que vous n'allez pas vous tourner vers le Sauveur, mais vous allez rester dans votre religion. Que faut-il alors pour trouver Noël? Un verset et je termine. Un verset et je termine. Luc 2, 11. Vous rappelez les mages? Ils sont allés à Bethléem. Qu'ont-ils fait lorsqu'ils ont vu Jésus? C'est absolument merveilleux. Dans Luc 2, 11. Ah non, je me suis trompé. Ça, c'est vraiment la meilleure. C'est dans Matthieu, c'est pour ça. Matthieu 2, 11. Matthieu 2, 11. Ils entrèrent dans la maison. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est ce qu'ils ont fait? Un, ils sont rentrés dans la maison. Il faut venir à lui, mes amis. Il faut venir à lui. Deux. ils virent le petit enfant et ils ont reconnu que cet enfant-là était le sauveur. Il faut reconnaître que Jésus est le sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 3. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils se sont humiliés et ils ont adoré Jésus-Christ comme leur Dieu. Et 4, ils lui offrirent leur trésor. En fait, vous savez ce qu'ils étaient en train de communiquer ? Seigneur, ma vie t'appartient. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis t'appartient. Tu m'as créé ? Prends-moi comme je suis et transforme ma vie. Rommel a raté le débarquement. J'ai raté un avion à Berlin. Mais il y a des événements bien plus importants que le débarquement et qu'un avion. L'événement le plus important de l'histoire du monde, c'est la venue du Sauveur. 'Vas-tu rater Noël cette année ? Les mages ont trouvé Noël. Alors je te pose la question. Rater ou trouver ? Prions. Seigneur, merci pour ce texte qui est si simple d'un côté et pourtant profond et bouleversant. Seigneur, travaille chacun de nos cœurs. Fais ton œuvre. Merci pour Noël, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.